et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Aujourd'hui, chers fidèles, nous fêtons au couvent Saint-Gilles, patron de la paroisse d'Avrier. Qui était-il? Quand et où a-t-il vécu? Modèle de quelle vertu pourrait-il être pour nous tous? Voyons-le tout de suite. Notre saint est né vers 640 en Grèce à Athènes. Et bien que son prénom Gilles ou Egidius signifie chevrier, gardien de chèvres, il était de race royale. Ses parents lui ont assuré une excellente formation intellectuelle. Un jour, le grand Gilles sera renommé pour ses ouvrages de médecine et de poésie. Mais surtout, ils lui ont donné l'exemple de toutes les vertus chrétiennes et une solide piété. Allons un jour à l'église, notre futur saint rencontre un pauvre mendiant, malade et presque nu, qui lui demande l'aumône. Gilles, ému de compassion, lui donne sa riche tunique, et à peine le malheureux en est revêtu, qu'il se trouve en parfaite santé. Le bienfaiteur comprit à ce miracle combien l'aumône était agréable à Dieu. Peu de temps après, à la mort de ses parents, il distribue tous ses biens aux pauvres, se réservant pour lui-même de suivre Jésus-Christ pauvre, souffrant et humble. Et notre Seigneur le paiera de retour par de nouveaux miracles. Juste deux. Gilles guérira par sa prière un homme mordu par un serpent, dont la blessure aura été quasi mortelle, et il chassera le démon du corps d'un possédé qui aura troublé la messe du dimanche par ses hurlements. On entoure le thaumaturge de la vénération publique. La foule se presse sur son passage, lui amène des malades à guérir. Cette renommée inattendue, inespérée, l'effraie tellement qu'il se résout à quitter sa chère patrie et à faire voile pour l'Occident. Le fugitif voguait sur la mer Méditerranée quand une furieuse tempête s'éleva et mit son vaisseau à deux doigts du naufrage. Gilles ne craint pas la mort, mais touché du désespoir des autres passagers, il se met en prière et les flots se calment. On débarque à Marseille et le jeune grec, remontant à l'intérieur du pays, mendiant son pain, s'arrête à Arles, où il reçoit l'hospitalité chez une pieuse chrétienne. Là, de nouveau, malgré les efforts, sa vertu se trahira. Cela fait déjà 3 ans que la fille de l'hôtesse souffre de la fièvre. Tout reste inutile. Aucun médecin ne peut la guérir. À la demande de la mère, l'hôte prie Dieu de rendre la santé à l'enfant. Et, qu'on s'en doute, la fille recouvre parfaitement la santé. L'heureuse hôtesse ne peut témoigner longtemps sa reconnaissance à son bienfaiteur, car Gilles ira se cacher dans les rochers escarpés que baigne le Gardon. Il rêvait de la solitude et il la trouve dans une grotte sauvage près de laquelle coulait une petite source. Dégagé enfin de toute préoccupation terrestre, tout à Dieu, Gilles commence une vie de ferveur et d'austérité. Ses jours, ses nuits presque entières s'écoulent dans la prière continuelle. Il jeûne tous les jours. Le lait d'une biche que la Providence lui a envoyé suffit à son entretien. Depuis 3 ans déjà, notre solitaire habitait, comme au ciel, ce lieu oublié de tout le monde, quand un jour, Wamba, roi wisigoth d'Espagne, accompagné d'une suite nombreuse, vient chasser dans la forêt voisine, réputée très giboyeuse. Les chasseurs se sont avancés dans les forêts massives quand, tout à coup, la biche de Gilles bondit à leur approche. Les chiens se précipitent en aboyant. Les hommes les encouragent et les suivent. La pauvre bête, exténuée de fatigue, près de tomber sous les coups de chasseurs, accourt vers la grotte et, poussant des gémissements, implore le secours de son protecteur. Celui-ci sort de la caverne, lève ses regards vers le ciel et prie le bon Dieu de conserver la vie à cet innocent animal. Un archer, pour faire sortir la biche de sa retraite, décoche une flèche à travers les broussailles. Les chasseurs poussent à travers le bocage jusqu'à la caverne. Et là, ils trouvent notre ermite en prière, blessé à la main par la flèche égarée, la biche couchée à ses pieds. Le roi wisigoth tombe à genoux, lui demande pardon et veut panser la plaie de Gilles. Notre saint ne désire rien d'autre que d'achever ce jour dans cette solitude silencieuse, sans être connu des hommes. Vaines espérances. Le roi Wamba profitera de son séjour pour venir le voir, lui demandant conseil, en échange lui offrant des présents que Gilles ne voudra jamais accepter. Un jour que le roi insiste davantage, le solitaire lui dit « Si vous voulez montrer votre générosité, fondez un monastère où vous placerez des religieux d'une vie régulière qui serviront Dieu et prieront pour vous. Oh, »« Je veux bien, » répond le prince, « mais à une condition, c'est que vous soyez le supérieur de l'abbaye. » Gilles, se croyant incapable et indigne de commander à personne, et surtout, préférant le silence et la solitude, seul à seul avec Dieu, remercie au début pour cette proposition. Mais finalement, il l'accepte, moins à cause des supplications du roi, que pour ne pas empêcher, par son refus, une œuvre si utile à la gloire de Dieu et au bien des âmes. Un monastère s'élève. Il sera rapidement peuplé par de nombreux disciples, désireux de se consacrer à Dieu sous la direction du père abbé Gilles. En 719, les musulmans, après avoir conquis l'Espagne, franchissent les Pyrénées et envahissent le midi de la France. Gilles, avec ses frères, se réfugie auprès de Charles Martel, duc d'Austrasie. Celui-ci reçoit notre saint avec une grande joie. Il avait souvent entendu parler de ses vertus. Charles était un homme vaillant, mais trop souvent dominé par ses passions. Il a commis un péché grave qu'il n'osait pas avouer à personne, pas même à Gilles. Or, pendant que notre saint disait la messe, un ange lui remit un billet où était écrit le péché du duc et la promesse du pardon en cas de repentir. Après la messe, le saint montre le billet à Charles. Celui-ci tombe à ses genoux, confesse qu'il est coupable de cette faute et en reçoit l'absolution. C'est la raison pour laquelle on invoquait autrefois Saint Gilles contre la timidité qui paralyse les pécheurs au confessionnal. Après une grande bataille sous les murs de Toulouse, où les Sarrasins ont été vaincus, Gilles revient enfin avec ses religieux dans son monastère entièrement démoli. Ils relèvent les ruines et reprennent leurs exercices réguliers. C'est là que le saint fondateur achève ses jours à l'âge de 80 ans, le dimanche 1er septembre 720. Le corps de saint Gilles, enseveli dans un tombeau tout simple, avec le fer de la flèche qui perça sa main, deviendra l'objet d'une grande vénération, si grande que 3 siècles plus tard, la cité qui s'est bâtie autour de son monastère et qui a pris le nom de son fondateur, Saint Gilles, deviendra l'un des plus célèbres pèlerinages du monde chrétien, après Sainte Marie Majeure et Saint Pierre de Rome, et juste après Saint Jacques de Compostelle. Saint Gilles est invoqué contre l'incendie, la folie et la peur. Mais la grâce particulière que nous pouvons lui demander aujourd'hui pourrait être, par exemple, l'amour du silence et surtout l'amour de la solitude et surtout l'amour du silence. Mais pourquoi silence? Pourquoi faut-il se taire? D'abord, le silence nous aide à parler avec Dieu dans notre cœur. On trouve difficilement une personne spirituelle qui parle beaucoup. Le silence, d'une part, nous préserve de beaucoup de péchés. Il écarte les disputes, les vaines curiosités. De notre côté, le silence nous procure beaucoup de vertus. L'humilité. Quand, pendant que les autres parlent, on écoute. La mortification, quand on voudrait raconter un fait ou dire un bon mot qui viendrait en ce temps à propos dans la conversation et on s'en abstient. La douceur, quand on se voit repris ou offensé à tort et on ne répond rien. Au contraire, le tort qu'on se fait quand on parle beaucoup, est immense. Si quelqu'un parle beaucoup avec les hommes, il parle peu avec Dieu. Et Dieu, de son côté, lui parle peu aussi, ou pas du tout. Et puis, lorsqu'on parle beaucoup, on se trouve le plus souvent coupable d'un grand nombre de fautes. Saint Jacques appelle la langue un mal universel. Pourquoi? Parce que la plupart des péchés viennent d'avoir parlé ou d'avoir entendu parler. Trop parler conduit facilement à la médisance. Mais est-ce que cela veut dire qu'il faudrait désormais garder la bouche cousue? Non. La vertu du silence ne consiste pas à se taire toujours, mais à se taire quand il n'est pas utile de parler. Comme disait le prophète Salomon, il y a un temps pour se taire et temps pour parler. Comment donc il faut parler? Saint François de Sales nous donne une règle générale. Il faudrait avoir la bouche fermée avec des boutons. Et pendant qu'on l'ouvre, qu'on pense bien à ce qu'on veut dire. Ajoutons 3 règles particulières, 3 règles d'or. Premièrement, évitons toute murmure ou médisance. Abstenons-nous de railleries qui peuvent causer quelques peines aux autres. Deuxièmement, n'interrompons pas ceux qui parlent. Les autres peuvent aussi avoir des choses intéressantes à dire. Enfin, 3e règle d'or, ne disons rien à notre propre louange. Et si les autres nous louent, changeons de discours. Et si au contraire, on est contredit ou on plaisante de nous, évitons de nous fâcher, prenons la chose en bonne part. Que Saint-Gilles, que Notre-Dame surtout, que l'Évangile nous présente très modérés dans la parole, nous obtiennent un véritable amour du silence. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.